Bonjour à tous et bienvenue dans le Labomatique, votre émission dédiée à la vulgarisation scientifique sur Radio Campus Rennes 88.4. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus à la station biologique de Paimpont pour rencontrer Benoît Heulin, chercheur au sein de l'UMR 6553, une unité associée au CNRS qui étudie des problèmes d'évolution et d'écologie. Benoît Heulin, lui, s'intéresse à une espèce particulière de lézard, appelée lézard vivipare. Il travaille depuis 30 ans sur l'évolution du mode de reproduction de cette espèce, qui à l'état ancestral pondait des œufs. Il sera donc question dans cette émission d'oviparité et de viviparité, mais également d'adaptation et d'évolution. Benoît Heulin, bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS et vous travaillez depuis 30 ans à la station biologique de Paimpont. Alors, qu'est-ce qu'on y étudie ?
Oui, bonjour. Eh bien, à la station biologique de Paimpont, il y a deux équipes de recherche. Une équipe qui travaille plutôt en écologie, ça s'appelle l'UMR 6553, et une équipe qui travaille plutôt en éthologie, le comportement animal, l'UMR 6552. Les deux UMR travaillant par ailleurs sur des problèmes d'évolution.
Alors, qu'est-ce que vous, maintenant, vous étudiez au sein de cette station ?
Eh bien, moi, je m'intéresse plus particulièrement à un problème d'évolution, et qui est en fait l'évolution de l'oviparité à la viviparité chez les reptiles. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'essayer de comprendre pourquoi certains reptiles pondent des œufs et d'autres font directement des petits, ce que vous connaissez tous, la gestation, comme chez nous les mammifères. Les précisions qu'il faut donner un peu pour comprendre cette problématique sont les suivantes. D'abord, il faut comprendre que d'un point de vue adaptatif, l'oviparité, c'est quelque chose de très peu coûteux pour la mère puisqu'elle pond simplement ses œufs et qu'elle les laisse se développer seule dans la nature. En revanche, la viviparité, c'est-à-dire le fait de garder ses embryons dans les utérus, est beaucoup plus contraignante, plus coûteuse en énergie pour la mère. Mais en revanche, elle contribue à mieux protéger les embryons et à les maintenir dans des conditions plus favorables, à un développement rapide en tout cas. Un avantage essentiel est lié à la régulation de la température. La mère peut, en s'exposant au soleil, accélérer très sensiblement la vitesse de développement de ses embryons, ce qui est un avantage décisif dans les climats froids. Bon, ça c'est un peu pour l'aspect adaptatif, mais maintenant sur l'aspect évolutif, ce qui est intéressant chez les reptiles, bon, il faut d'abord savoir que le mode de reproduction ancestral, primitif entre guillemets, c'est l'oviparité, c'est pondre des œufs, tandis que la viviparité est le mode de reproduction d'apparition plus récente, on appelle ça le mode dérivé. En fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on reporte ces deux modes de reproduction sur l'arbre phylogénétique des lézards et des serpents, ce qui veut dire la généalogie, si vous voulez, eh bien, on constate que l'apparition de la viviparité sur les différentes branches de l'arbre ne s'est pas produite une seule fois, mais non, de nombreuses fois, c'est-à-dire dans des branches différentes. Les reptiles, donc lézards et serpents, ont donc une forte propension à évoluer de l'oviparité à la viviparité. Cette situation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des espèces ovipares et des espèces vivipares, est déjà intéressante en soi pour entreprendre des études comparatives. Mais on a trouvé une situation qui est encore beaucoup plus intéressante.
Donc du coup, vous vous intéressez à une espèce de lézard particulière. Alors qu'est-ce qu'elle a de si particulier ?
Eh bien, ce lézard, ouais, il est particulier parce qu'initialement, on l'appelait, du moins la dénomination usuelle en français, on l'appelait le lézard vivipare. Ce qui laisse supposer que ce lézard a un mode de reproduction vivipare. C'est ce que l'on supposait, oui. En fait, il s'est produit quelque chose de tout à fait curieux, qui est qu'il existe une très vieille publication de M. Lantz en 1927, et dans laquelle cet auteur indiquait que lors d'une excursion dans la région pyrénéenne, vers Lourdes, il avait découvert sous une pierre une ponte, donc des œufs de lézard, ce qui n'a rien de surprenant en soi, mais qu'à sa grande surprise, il avait conservé les œufs au laboratoire, ces œufs à l'éclosion avaient donné des jeunes lézards vivipares. Donc paradoxalement, Lantz, en 1927, observait une reproduction ovipare chez le lézard vivipare. Cette observation, au lieu de susciter l'intérêt de la communauté scientifique, elle est rapidement tombée dans l'oubli, très longtemps, puisque personne ne s'en est occupé pendant plus de 50 ans. On s'est contenté de la citer de temps en temps, en supposant que Lanz avait fait une observation anecdotique, quelque chose de pathologique, ou bien même, certains ont suggéré qu'il s'était tout simplement trompé d'espèce, qu'il avait vu des pontres, mais qu'elles concernaient une autre espèce de lézard. Et en fait, ce n'est que relativement récemment, en 1987, donc 50 ans plus tard, que des collègues espagnols d'abord, puis moi, sommes allés vérifier un peu ce qui se passait dans la région basque en Espagne, et aussi côté français, dans les départements de la Gironde, des Landes et tous les départements pyrénéens. Et effectivement, nous avons pu confirmer l'observation de Lanz. Dans cette région, le lézard vivipare était bien ovipare. Toutes les femelles ramenées de cette région pondaient des œufs, ce qui était extrêmement excitant en termes de modèle de recherche. On venait donc de découvrir, ou de redécouvrir, la coexistence d'ovipare et d'ovipare dans une même espèce. On avait donc encore sous les yeux les traces d'une évolution majeure, le mode de reproduction ancestral, l'oviparité, et ce qui était apparu plus récemment, la viviparité. Au fil des années des prospections, on a fini par établir que l'espèce était vivipare dans la plus grande partie de son aire de répartition. Vous imaginez, en France, depuis le Massif central jusqu'en Bretagne, mais bien au-delà, puisque ça va jusqu'en Scandinavie et également jusqu'en Sibérie. Donc vivipare dans cette aire de répartition gigantesque, mais qu'il persistait deux petits noyaux ovipares isolés au sud de son aire de répartition, d'une part donc dans la région Aquitaine, Pyrénées, Pays Basque, et d'autre part également un autre noyau ovipare au sud de l'arc alpin dans la région italienne. Le CNRS m'a donc confié l'étude de cette situation extrêmement intéressante.
Alors donc d'un point de vue évolutif, le mode de reproduction ancestral de ces lézards, c'était d'être ovipare. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que ce mode de reproduction soit modifié?
Eh bien, en fait, pourquoi observe-t-on encore les deux modes? Cette chose a dû se produire très souvent au cours de l'évolution, mais je crois que c'est plus une question de hasard, de chance. Nous avons eu la chance de nous intéresser à une évolution qui est relativement récente. C'est-à-dire que les deux lignées, ovipares et vivipares, n'ont pas encore divergé suffisamment pour devenir des espèces différentes. Et aussi, ça c'était l'aspect temporel, et aussi parce que sont intervenues des périodes d'isolement géographique entre les deux groupes. Nos reconstitutions basées sur concernant l'aspect temporel, nos reconstitutions basées sur les taux de mutation de l'ADN mitochondrial indiquent effectivement que chez cette espèce, la divergence des ovipares et des ovipares a dû débuter il y a environ 1 million d'années, au début de l'ère quaternaire, ce qui à l'échelle des temps évolutifs est effectivement très court. D'un point de vue général, il faut savoir que cette ère quaternaire a été marquée par plusieurs pulsations climatiques, qu'on appelle les glaciations quaternaires, glaciations qui ont conduit de nombreuses espèces animales et végétales à se retrancher, à migrer dans ce qu'on appelle des refuges méridionaux, formant alors pour chaque espèce autant de sous-groupes qu'il y avait de refuges. Ce genre de situation favorise l'apparition de différenciation biologique puisque les différents sous-groupes ne sont plus en contact et ne se croisent pas perpétuellement entre eux. Ça, c'est d'un point de vue général, mais nos recherches, donc je vous ai dit, basées sur l'ADN mitochondrial, ont effectivement pu être inscrites dans un tel scénario. Premièrement, au cours des glaciations, les populations, initialement toutes ovipares, ont dû se retrancher dans des refuges méridionaux. Deuxièmement, la viviparité est vraisemblablement apparue à ce moment dans un des refuges. D'après nos données, il semblerait que ce refuge soit localisé au sud des Carpates ou quelque part dans la région balkanique. Après apparition, ce caractère vivipare dans ce refuge a alors commencé à se propager, car mieux adapté aux conditions climatiques froides, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Bon, finalement, dernière étape, après les glaciations et jusqu'à nos jours, les populations vivipares ont recolonisé les contrées nordiques, en suivant en fait le retrait des glaciers, tandis que les populations ovipares, elles, sont restées isolées dans deux autres situations de refuge, à savoir le refuge, grosso modo, on va dire ibérique, et puis l'autre, le refuge italien, débordant un peu après sur la région française pour le refuge ibérique.
On parle de deux modes de reproduction chez une même espèce, mais alors en fait, est-ce qu'on pourrait expliquer rapidement, quand on parle d'espèce, en fait, qu'est-ce qu'on entend par là?
C'est effectivement une bonne question, et c'est la première à laquelle, quand je dis nous, je parle également de nos collègues espagnols, nous nous sommes intéressés. Initialement, notre constatation de l'appartenance à une même espèce était uniquement basée sur les ressemblances entre les deux groupes. Mis à part le mode de reproduction, les deux groupes étaient identiques morphologiquement et ainsi qu'écologiquement, puisqu'ils fréquentaient les mêmes types de milieux, les mêmes types de biotopes. Mais ceci n'était pas suffisant. Il fallait aussi vérifier que l'on pouvait aussi leur appliquer ce que l'on appelle le concept biologique de l'espèce. C'est-à-dire que deux entités ne peuvent être considérées comme appartenant à la même espèce que s'il est possible de les hybrider entre elles, et si en plus, leurs hybrides sont eux-mêmes fertiles. Nous avons effectivement pu vérifier cela en élevant des lézards des deux souches en élevage et en faisant les deux croisements possibles des souches pures et ultérieurement en étudiant la reproduction des hybrides qui effectivement se sont reproduits. Donc on est bien dans le cadre de ce que l'on appelle une seule et même espèce biologique.
Une petite pause s'impose, on écoute Cocoon avec le titre Dolphin. De retour dans le labomatique avec Benoît Eulin, chercheur à la station biologique de Paimpont, il nous explique que l'espèce de lézard qu'il étudie est beaucoup plus présente sous la forme vivipare qu'ovipare. Nous lui avons donc demandé quel était l'avenir des lézards ovipares, l'espèce ancestrale qui ne vit plus que dans deux petites régions du sud de la France.
Prédire l'avenir, c'est encore plus difficile que de reconstituer le passé. Alors, que dire de cela ? Dans le contexte actuel du réchauffement climatique, on pourrait effectivement prédire que les vivipares, qui ont tendance à être mieux adaptés au climat froid, risqueraient éventuellement de souffrir plus du réchauffement que les ovipares.
Donc on va parler maintenant un peu plus de vos recherches. Alors, quels sont les objectifs exacts de ce que vous faites tous les jours au sein du laboratoire de la station de Paimpont ?
Par rapport à ma problématique, on peut la résumer en une seule question avec différentes facettes. On cherche à savoir quand, où, comment et pourquoi cette évolution de l'oviparité s'est produite chez l'espèce. Donc la question quand et où, c'est un peu celle à laquelle je viens de répondre en vous expliquant l'histoire phylogéographique, à quel moment et à quel endroit se sont produites les divergences et comment elles se sont propagées. Deuxième aspect de la question, comment, cette fois c'est plutôt relatif à la compréhension du support génétique et anatomo-physiologique des différences entre les ovipares et les vipares. Et dernière question, le pourquoi, c'est une formulation un peu finaliste de la question adaptative, c'est-à-dire c'est la question de savoir dans quelles circonstances l'un des modes de reproduction est favorisé par rapport à l'autre. Notamment, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on peut s'intéresser en particulier aux circonstances climatiques, puisqu'on suppose que les vivipares sont mieux adaptés au froid que ne le sont les ovipares.
Alors, au niveau de l'organisation de votre travail, j'imagine que vous êtes de temps en temps amené à aller sur le terrain et que vous avez aussi un travail quotidien dans les laboratoires. Alors, comment ça se passe ?
Oui, effectivement, vous avez totalement raison. Il y a deux grands types de recherches. Il y a les recherches qui s'effectuent sur le terrain, pas les recherches elles-mêmes, mais le recueil des données nécessaires à ces recherches. Quand je dis des études de terrain, il s'agit notamment d'aller récolter les échantillons de tissus qui vont nous servir à faire les études génétiques, à faire les études phylogéographiques, comme je vous expliquais. Par ailleurs, sur le terrain, nous avons également des travaux de suivi de populations naturelles, dans le but de, sur un relativement long terme, dans le but d'évaluer si les populations ovipares ne suivent la même courbe démographique que les vivipares, etc. Toujours en relation avec les aspects que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les aspects d'influence des conditions climatiques sur le succès de l'un et l'autre des modes de reproducteurs. Donc ça, c'est le premier aspect terrain. Et d'autre part, évidemment, quand on revient du terrain, il reste le travail de laboratoire, exploiter les données que nous avons ramenées, donc les aspects génétiques. Mais également au laboratoire, ce qui peut être développé de façon particulière, c'est tout ce qui concerne les approches en élevage. Nous élevons en effet ici à Paimpont les deux souches, ovipares et vivipares, ce qui nous permet pour certains types d'approches de comparer les deux groupes dans des conditions tout à fait standardisées, ce qui est beaucoup plus facile au laboratoire en élevage que sur le terrain. Donc dans cette deuxième catégorie, nous réalisons des études, par exemple, anatomo-physiologiques, des études éco-physiologiques, l'influence de la température sur le développement des embryons vivipares et des ovipares.
Quelles sont vos perspectives de recherche ?
Alors, les perspectives de recherche, elles sont multiples. Nous avons quand même traitement progressé sur les différents aspects que j'évoquais tout de suite depuis ces nombreuses années, mais à chaque fois que nous apportons une bribe de réponse à une question, il s'en pose toujours des nouvelles et le sujet est, comme toujours en science, est plus ou moins infini. Bon, parmi les choses intéressantes que nous essaierons de développer à l'avenir, du point de vue anatomo-physiologique, nous allons essayer de développer des méthodes où l'on peut quantifier les dépenses énergétiques qui sont associées au mode de reproduction ovipare et vivipare. Pour certains aspects, on peut supposer qu'il existe des coûts plus importants chez l'ovipare puisqu'il produit une coquille que le vivipare ne produit pas. Inversement, on comprend bien que la gestation, c'est-à-dire le fait de garder ses petits longuement dans les utérus, entraîne des coûts métaboliques plus importants chez les femelles vivipares. Donc ça, c'est une première chose. Nous allons prochainement quantifier ces différences de coûts métaboliques dans les deux groupes. Autre sujet intéressant dans l'anatomie physiologie, nous allons essayer de comprendre pourquoi l'ovipare sécrète une coquille épaisse alors que le vivipare ne le fait pas. Bon, nous avons d'ores et déjà pu établir que cette différence coquille épaisse chez l'ovipare et très fine coquille chez le vivipare sont en fait dues à une différence d'activité de certaines glandes qui se localisent dans les utérus. Et l'on sait par ailleurs que l'activité de ces glandes est elle-même modulée par certaines hormones. En l'occurrence, il s'agit d'estrogènes, de l'estradiol. Malgré cette connaissance, nous avons été surpris de constater qu'il n'y avait pas de différence sur la quantité d'hormones circulantes dans les plasmas des deux groupes, ce qui nous laisse désormais supposer que la différence porte plutôt sur les récepteurs à cette hormone dans l'utérus que sur l'hormone elle-même. C'est donc ce point que nous allons essayer de comprendre dans les années à venir, c'est-à-dire en comparant quantitativement l'abondance des récepteurs à estrogène dans l'utérus ovipare et, même chose, son abondance dans l'utérus vivipare. Je vous ai parlé des études de terrain. Bon, ceci, bien sûr, reste au centre de nos préoccupations, mais il s'agit toujours d'études à long terme. Donc, sur le terrain, nous allons continuer à récolter des échantillons pour la génétique, mais aussi, nous allons essayer de faire des études à long terme pour la compréhension des aspects adaptatifs, notamment de l'adaptation aux conditions climatiques et à leur changement. Du point de vue du déterminisme génétique, nous souhaiterions mettre en œuvre les approches permises par les nouveaux outils extrêmement puissants de la génomique. Il s'agit des puces à ADN et autres techniques qui permettent de quantifier l'expression des gènes. Nous espérons ainsi, à partir des tissus utérins, dresser un catalogue des gènes surexprimés dans un groupe et sous-exprimés dans l'autre, et ainsi comprendre le déterminisme génétique de cette évolution majeure.
Est-ce qu'il y a d'autres espèces chez qui on observe la même chose, enfin, deux modes de reproduction différentes ?
En fait, nous avons pris une longueur d'avance en redécouvrant ce qu'on appelle cette bimodalité de reproduction, deux modes de reproduction dans une même espèce. Mais depuis, effectivement, une situation analogue avait également pressentie chez deux autres espèces de lézards australiens. Donc ceci s'est avéré vrai, et donc les Australiens s'intéressent aussi à des situations comparables chez des espèces vivant chez eux. Mais bon, c'est nous qui avons commencé, donc nous avons encore quelques longueurs d'avance.
Est-ce que c'est plutôt quelque chose d'exceptionnel ou pas ?
Oui, c'est tout à fait exceptionnel, puisque même si au total on a identifié trois situations, donc notre espèce de lézard et ces deux espèces australiennes, au total ceci est rarissime, puisque au regard des 6000 espèces de lézards et de serpents que l'on connaît, c'est vraiment une situation exceptionnelle.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page internet du Labomatique au www.radiocampusrennes.fr. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Labomatique.